Nous vivons actuellement la semaine de la langue française et de la francophonie, c'est jusqu'au 24 mars, et le thème de cette année, l'Afrique francophone.
L'occasion pour nous de nous intéresser à la langue française, son évolution et sa beauté.
Avec nous ce matin, Jean-François De Pietro, linguiste spécialisé en didactique du français et en plurilinguisme. Jean-François De Pietro, bonjour.
Bonjour.
La langue française, elle était parlée par les tsars de Russie, presque toutes les cours d'Europe. Aujourd'hui, c'est la langue officielle de 29 pays dans le monde. C'est une langue qui a toujours le même impact, le même prestige qu'il y a 200, 300 ans.
Non, elle n'a plus tout à fait le même prestige, mais elle conserve tout de même une forte présence internationale et elle occupe une place parmi les langues du monde qui est d'ailleurs au-dessus de son importance numérique. Donc ça reste une langue quand même d'une grande importance.
Une langue de prestige plus que de pratique, on va dire, puisque vous le disiez, numériquement, il y a longtemps que les francophones ont été dépassés par ceux qui sont les locuteurs d'autres langues.
Oui, alors le prestige, mais un prestige qui est toujours un petit peu ambigu, parce que on aime le français, c'est la langue de l'amour, la langue de la diplomatie, on cultive sa complexité. Par contre, on l'aperçoit moins comme la langue de l'économie, comme la langue de la technologie, et c'est là qu'il y a un combat à mener pour modifier un peu cette image un peu surannée.
Le français ou la langue française, elle a toujours été en évolution entre le vieux français, le français d'il y a une cinquantaine d'années, et puis le français d'aujourd'hui. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cette langue va toujours vers la simplification.
Comme toutes les langues, c'est une loi qui a été mise en évidence par les linguistes. Toute langue tend à aller plutôt vers une simplification de ses aspects les plus compliqués. Le fonctionnement, on remarque que les langues, par exemple, qui ont une morphologie flexionnelle, tendent à avoir plutôt des prépositions. Donc on a une évolution dans cette direction. Mais c'est bien des difficultés du français qui a parfois de la peine à évoluer en raison d'une normativité particulièrement forte dans cette langue.
Elle est quand même toujours en évolution, plus ou moins que d'autres langues comme l'anglais ou l'allemand, par exemple.
Alors, au niveau, je dirais, des pratiques sociales des locuteurs, elle évolue comme toutes les langues. Rien ne freine les locuteurs pour faire évoluer le français. En revanche, au niveau des normes, on voit souvent que des instances normatives, telles l'Académie française, tendent à freiner un peu cette évolution. Vous avez peut-être vu que l'Académie française vient d'accepter que les termes de métier soient féminisés, ce qui nous amuse un peu en tant que Suisse, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'ici, cette question ne fait plus débat.
Et puis, avec toute la discussion également autour de la langue inclusive, c'est le grand débat du français actuellement?
Oui, alors justement, l'Académie française vient d'accepter de féminiser les termes de métier. Alors qu'ici, on parle de la chef du ministère de l'Intérieur, depuis Ruth Dreyfus. Il n'y a plus de débat ici sur la féminisation des termes. En revanche, effectivement, il y a la question de l'écriture inclusive dans les textes qui est bien plus délicate. On essaye de travailler sur ces questions un peu. On a une réunion régulière d'un organisme des organismes francophones qui s'occupent de la langue, qui réunit la Belgique, le Québec, la France et la Suisse pour le moment. On espère intégrer davantage l'Afrique, et qui justement s'intéresse à ces questions. Les Belges en particulier ont fait des travaux extrêmement intéressants pour essayer de voir comment on peut aller vers une écriture plus égalitaire, plus inclusive.
Et puis, ça veut dire que l'Académie française, c'est un peu, passez-moi l'image, la bande de vieux schnock qui veut préserver des choses qui n'ont plus cours dans la vie de tous les jours.
Oui, c'est un aspect de l'Académie française. D'un autre côté, il n'est peut-être pas si mal qu'une instance tienne un discours un peu conservateur. pour autant qu'elle n'ait pas un pouvoir trop fort et que des forces contraires puissent également s'exercer. Nous prônons, quant à nous, plutôt un conseil international de la langue française. On peut aussi reprocher à l'Académie française le fait que la France, en quelque sorte, s'approprie la langue française au nom d'une histoire qui est pas si évidente que ça. Hein. On sait que le canton de Neuchâtel, par exemple, en particulier les cantons protestants de Suisse, étaient bien plutôt francisés que beaucoup de régions de France. Donc la France s'approprie en quelque sorte la norme, la normalisation, la gouvernance du français, alors qu'aujourd'hui la majorité des locuteurs sont en Afrique et ailleurs qu'en France.
Vous qui l'étudiez, qui en êtes un spécialiste, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette langue ? Qu'est-ce qui vous fascine dans le français ?
Pour d'abord une passion de la langue, en général, des langues. Hein, je travaille également sur la diversité linguistique, donc c'est des choses qui me fascinent au plus haut point. Pour ce qui est du français... c'est une langue pour moi comme une autre, mais c'est la mienne. Voilà. Donc c'est à ce titre-là d'abord qu'elle m'intéresse. Et je m'intéresse à l'histoire, mais je m'intéresse aussi au fonctionnement, en particulier en lien avec l'enseignement, hein. Plutôt au texte. Comment on argumente, comment on présente un exposé, des choses comme ça, comment on développe sa pensée à travers la langue, mais à travers le discours et à travers la communication, plutôt que simplement des questions de normes. L'orthographe m'intéresse par exemple en tant que débat, mais moins en tant qu'objet, en tant que tel, par exemple.
Jusqu'à 9h, format A3.
Nous sommes de retour avec Jean-François De Pietro, linguiste spécialisé en didactique du français et du plurilinguisme.
Et nous parlons de la langue française aujourd'hui, puisque jusqu'au 24 mars, on vit la semaine de la langue française et de la francophonie.
Avec l'Afrique francophone à l'honneur cette année. Jean-François De Pietro, le français, il est riche aussi de par la migration, de par les mélanges.
Oui, alors comme toute langue, le français a toujours vécu d'échanges, de migrations, de mouvements de population. Faut pas oublier que le français est né d'une migration romaine qui s'est substituée aux langues celtiques, hein, aux Gaulois. Donc c'est une vieille histoire. Le français n'a jamais cessé d'évoluer. En plus, après, on dit souvent que le français est la plus germanique des langues romanes, en lien aux invasions des Francs. Donc c'est une vieille histoire. Après, il y a eu plein d'enrichissements liés à l'Italie, souvent, hein, des mots italiens au XVIe siècle. C'est pas un hasard, c'est la période d'or de l'Italie, des mots comme banque et plein d'autres, tous les termes de la musique. Et aujourd'hui, après il y a eu l'anglais, et aujourd'hui il y a des langues du monde qui viennent avec les mouvements migratoires, donc c'est un phénomène tout à fait permanent et continu.
Alors justement, vous avez évoqué l'anglais, hein. L'anglais, on en parle beaucoup avec les anglicismes qui sont souvent pointés du doigt. Est-ce qu'il faut diaboliser cet anglicisme ou est-ce qu'il faut le voir comme une richesse qui fait évoluer notre langue ? Quelle est votre perception de tout cela ?
Alors, je voudrais dire d'abord que c'est une position... personnel, hein, je représente personne à cet égard. Il y a deux facettes pour moi. D'un côté, le fait d'emprunter des mots à l'anglais est absolument normal et inévitable vu le prestige actuel. Justement, on parlait de prestige, mais vu le prestige actuel de l'anglais, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des emprunts à l'anglais et que les emprunts à l'anglais soient plus importants que les emprunts d'autres langues. En revanche, je suis personnellement choqué quand des grandes entreprises font toute leur communication en anglais ou quand on a, dans tous ces moments, on a l'impression que l'usage de l'anglais est un oreiller de paresse, hein, quand on voit sale pour les soldes. Et là, je dois dire que je suis assez sensible et négativement à ce snobisme, à ces phénomènes-là.
C'est plus smart. de mettre quelques mots d'anglais.
Oui, non, mais des mots comme cool, comme parking, ben voilà, ils viennent. Hein, ils viennent et puis les gens les adoptent. Enfin, parking, j'ai dit parking pour prendre un terme plus ancien, dont on sait d'ailleurs qu'il n'existe pas vraiment sous cette forme en anglais. Mais avant, il y avait paquebot. Enfin, je veux dire, c'est normal. Mais j'aime bien des mots comme feeling, comme cool, comme. Il y en a plein de plus modernes que j'utilise peut-être un peu moins, comme smart. Mais là, c'est la vie normale des langues.
Est-ce que vous voyez dans le futur, parce que maintenant on connaît l'importance que prennent les langues asiatiques, avec le chinois notamment, qui devient une langue des affaires aussi, ça veut dire que les prochains mots qui vont arriver dans la langue française, ils viendront de ces endroits-là?
C'est une très bonne question. D'ailleurs, il y avait un linguiste, mais je ne sais plus qui avait dit « Les optimistes apprennent l'anglais, les pessimistes apprennent le chinois ». Donc, il y a bien quelque chose. Il y a eu un rapport, par exemple, produit par des linguistes anglais, qui montre que les anglophones eux-mêmes ont des craintes par rapport à l'avenir de leur langue. L'ouvrage s'appelle « The Future of English ». Et visiblement, ils ont eux-mêmes des craintes par rapport à l'avenir. On n'en est pas encore là. Hein. Mais, assurément, il va y avoir des influences du chinois plus marqué. Il y a beaucoup plus de gens qui apprennent le chinois aujourd'hui. Hein. Donc, il va y avoir des choses. Quand tu as pensé qu'on va parler chinois dans un siècle, ça, j'y crois pas trop.
Les jeunes, ils amènent aussi leur pierre à l'édifice, parce qu'évidemment, il y a toujours ce langage des jeunes hein, qui est d'abord critiqué, puis qui prend une grande place. C'est aussi eux qui créent une nouvelle façon de parler, qui amènent des nouveaux mots importants.
Bien sûr. Ça a toujours aussi été comme ça. Hein. La langue évolue et c'est souvent par les populations les plus jeunes qui s'adaptent davantage aux inventions, aux nouvelles technologies, etc. et qui introduisent des manières de parler légèrement différentes.
Puisque l'Afrique est à l'honneur hein, pour ces semaines de la francophonie, est-ce que vous pensez que l'Afrique, par sa culture notamment, apporte aussi quelque chose à l'évolution de la langue française? Est-ce qu'il y a des exemples qui paraissent évidents, selon vous?
Oui, alors, je dirais que on n'a pas assez d'échanges avec l'Afrique et d'ouverture aux Français d'Afrique pour vraiment accueillir certaines formes de parler le français qui sont en usage en Afrique. Mais je pense que ça va augmenter. Et justement, nous prenons un conseil de la francophonie élargi qui prend en compte davantage ce qui se passe actuellement au niveau du français en Afrique. On sait que Kinshasa est la plus grande ville francophone hein, aujourd'hui. Et je crois que c'est important. Alors, j'ai pas comme ça, quand on est à la radio, c'est difficile d'avoir des exemples qui viennent comme ça, mais il y a effectivement des très belles formules en français d'Afrique et qui auraient tout à fait leur place dans le français général.